Vous êtes sur RTL.
Pour deux heures d'info, à la une, Ascoval, la douche écossaise. Le repreneur de la série de Saint-Saulve, British Steel, est en faillite. Le gouvernement fait tout pour rassurer. Oui, la reprise va se poursuivre. Non, le site du nord de la France n'est pas concerné par la procédure de liquidation car il appartient en fait à une autre société du groupe britannique. Mais sur place, les salariés sont à bout de nerfs. Ils ont même arrêté brièvement le four. Le président de la région de France, Xavier Bertrand, est actuellement avec eux. Que leur a-t-il dit? Est-il aussi confiant que Bruno Le Maire? A-t-il l'impression d'avoir été trahi? Dans 20 minutes, il sera notre invité dans RTL Soir. On va vous expliquer également les enjeux de cette faillite. Vous entendrez le ministre de l'économie et le débat dont refait le monde. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
L'affaire Lambert relance l'intérêt pour les directives anticipées. Information RTL, les demandes de renseignements ont été multipliées par 30 ces derniers jours. 30 000 connexions sur le site concerné. L'homme qui avait insulté Alain Finkielkraut en marge d'une manifestation des Gilets jaunes jugé aujourd'hui, il comparaît pour injure antisémite. À suivre également le compost humain légalisé dans l'état de Washington aux États-Unis, un retour à la terre qui n'a rien d'évident. Le divorce entre Rudy Garcia et l'OM, l'entraîneur quittera le club à la fin de la saison. Et puis Brad Pitt et Leonardo DiCaprio à la fin de ce journal, les deux héros du dernier Tarantino. Les courses à la Capelle, il fallait jouer le 8, le 7, le 15, le 6 et le 12. La Bourse de Paris, elle clôture en légère baisse, 0,12%. Le CAC 40 est à 5379 points.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, envoyer un mail, regarder un film en streaming, ça pollue plus que prendre l'avion. Mais seuls 40% d'entre nous le savent. Alors, quelle est l'empreinte carbone de ces gestes devenus quotidiens? Puis direction les coulisses de l'actualité, ballon, maillot et même la possibilité de donner le coup d'envoi d'un match. On vous emmène en coulisses du gala de charité du PSG en faveur des enfants malades et défavorisés. 18h30, Alain Duhamel, la dernière cartouche de Theresa May. 18h35, la tête haute. Il y a 2 ans et demi, vous vous en souvenez, Marin était violemment tabassé à Lyon après avoir défendu un couple qui s'embrassait. Aujourd'hui, le jeune homme miraculeusement sauvé et décoré de la Légion d'honneur se reconstruit. Sa maman, Audrey Sauvageon, se confie dans un livre et tout à l'heure sur RTL. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Demain, le temps sera ensoleillé avec des températures en hausse.
Oui, un avant-goût d'été pour demain après-midi avec des températures en très nette hausse, jusqu'à 27 degrés à Montauban, 24 degrés à Marseille comme à Paris. À Nantes, 22 à Lille et Besançon et 19 degrés au Havre, avec un temps qui sera très ensoleillé sur une large moitié est et dans le sud après dissipation de quelques plaques de grisailles, notamment sur l'extrême sud-est en début de journée. Et puis sur l'ouest, la matinée sera très agréable avec un ciel lumineux, mais le temps deviendra plus nuageux dans l'après-midi le long de la côte atlantique avec quelques ondées à caractère orageux, surtout demain soir sur le nord-ouest.
Merci Patricia et à tout à l'heure.
RTL Soir.
Les salariés d'Ascoval ont perdu la foi, Isabelle. Leur repreneur British Steel va être placé en faillite.
Oui, l'entreprise va être purement et simplement liquidé. Concrètement, cela signifie que les 4500 employés du groupe au Royaume-Uni pourraient perdre leur emploi. Un coup de massue pour les 270 salariés de la scierie de Saint-Saulve dans le Nord, une semaine seulement après la reprise. Mais immédiatement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a voulu les rassurer. Ils ne sont pas concernés.
Nous restons totalement engagés pour garantir le succès de cette reprise. British Steel a tenu ses engagements. L'argent qui devait être versé a été versé. Ça n'était pas le cas avec le précédent repreneur. Ce qui m'a permis de mon côté, de débloquer les 15 millions d'euros que l'État s'était prêt à engager. Tout ça me rend confiant. Donc nous allons continuer à faire les choses avec la même méthode, en nous assurant à chaque étape que la prise est solide, pour que cette reprise aille à son terme dans les meilleures conditions possibles. C'est difficile. Il y a des hauts et des bas qui sont très difficiles à vivre pour les salariés et c'est à eux que je pense en priorité. Mais ma détermination, elle est totale depuis le début et elle reste totale aujourd'hui.
Bruno Le Maire avec Christophe Ponzio pour RTL.
Bruno Le Maire qui recevra les salariés d'Ascoval d'ici la fin de la semaine, mais à Saint-Saulve, on n'y croit plus. Franck Hanson, vous êtes sur place pour RTL. Pour la première fois depuis la création du site, il y a plus de 40 ans, les salariés ont arrêté le four brièvement, symboliquement.
Oui, dans ces ateliers devant les fours d'acier liquide, on sent bien des salariés à bout, ce qui n'est pas sans poser des risques d'ailleurs sur la sécurité. Des ouvriers dignes, mais qui n'en peuvent plus de ces rebondissements. On leur avait présenté un repreneur solide, ils n'ont plus confiance.
Ras-le-bol, faut arrêter. Ça fait 4 ans que ça dure, faut arrêter de prendre les gens pour des pions et pour de la viande. Ascométal, ensuite Altifor, et maintenant encore un vampire de la finance.
Vous n'êtes pas rassuré là ?
Pas du tout. Ça va tenir 6 mois maximum et c'est tout. faut arrêter, il faut penser à reclasser les gens.
Cet après-midi, un comité d'entreprise a eu lieu en urgence pour tenter de rassurer, de donner des précisions. Les autorités répètent que l'aciérie Ascoval n'est pas concernée par la situation de British Steel, mais les délégués comme Bruno Kobzinski s'attendent forcément à un impact.
Jusqu'à maintenant, on a réussi à garder notre calme et être professionnel, mais ça devient difficile. Donc, vous savez, quand on dit ça va mal en Angleterre, en France ça va bien, ça me fait penser en 86 quand on parlait de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière parce que les barrières des douanes étaient fermées. Ça franchit quand même. L'impact, il est aussi sur nos fournisseurs, sur nos clients. Quand on vient d'être pris par une société qui va pas bien et qui est même mis en liquidation, c'est sûr que ça complique les choses.
Les salariés nordistes dépités se sont engagés à finir la production cette semaine avant peut-être un nouvel épisode dans ce triste feuilleton métallurgique.
À Saint-Saulve pour RTL Franck Hanson, donc Xavier Bertrand qui est à la scierie de Saint-Saulve et notre invité maintenant dans un quart d'heure sur RTL. Vous en souvenez, hein, il avait insulté Alain Finkielkraut en marge d'une manifestation. Un gilet jaune est jugé cet après-midi à Paris.
C'est lui qui était le plus visible sur les vidéos de la scène qui avait circulé en février dernier. On le voyait invectiver le philosophe en le traitant de sioniste. Elle est à nous la France, c'est ce qu'il criait. Cet Alsacien est jugé pour injure à caractère antisémite, une qualification qu'il conteste, Nicolas Burnand.
Oui, à la barre, le prévenu, petite barbe, blouson kaki, campe sur ses positions. Ce jour-là, il affirme avoir visé les idées et non la religion d'Alain Finkielkraut, qu'il a reconnu par hasard dans les rues de Paris lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Pourquoi l'avoir insulté, demande le président. Je voulais simplement exprimer mes opinions, répond celui qui revendique une profonde sympathie pour le peuple palestinien, un rejet de la politique de l'État d'Israël. Il y a un lobby sioniste qui nous dirige en France, ajoute avec assurance ce gérant de magasin, père de 5 enfants. Puis Alain Finkielkraut, costume sombre, s'avance devant le tribunal. Il est entendu comme témoin. L'académicien raconte en détail son agression, se rappelle, je cite, de ce visage déformé par la haine. Il dénonce une nouvelle forme d'antisémitisme qui, selon lui, joue sur les mots.
Je n'ai aucune vindicte personnelle. Je ne veux donc pas demander de réparation. Et contrairement à ce qu'essaye de dire la défense, ce n'est pas moi en tant qu'individu avec ses opinions qui a été visé. C'est moi en tant que juif. Il revient donc au ministère public d'assumer les poursuites et solennellement de marquer le coup.
Le ministère public qui s'est attaché à prouver que les propos tenus transgressent la liberté d'expression, un antisémitisme dissimulé derrière un antisionisme revendiqué. Il requiert une peine de 6 mois de prison avec sursis. La décision a été mise en délibéré.
Nicolas Burnand pour RTL.
10 mois de prison, dont 6 mois ferme pour l'agresseur de Julia. Cette femme transgenre avait été frappée et insultée fin mars, place de la République, en marge d'une autre manifestation des Gilets jaunes. Le nonce apostolique de Paris a été confronté cet après-midi à l'un des hommes qui l'accusent d'agression sexuelle. Monseigneur Ventura continue à nier les faits. 4 plaintes en tout ont été déposées.
L'affaire Vincent Lambert fait bondir le nombre de directives anticipées. Les demandes de renseignements ont été multipliées par 30 et c'est une info RTL.
C'est une disposition de la loi de 2016 sur la fin de vie. Elle permet d'écrire dans un document officiel ce que l'on souhaite au moment critique, notamment un maintien en vie artificielle en cas de perte de conscience définitive. Actuellement, seuls 13% des Français ont rédigé leurs directives anticipées, mais ces derniers jours, le site servicepublic.fr reçoit 30 000 visites par jour. Brigitte vient de franchir le pas. Elle est elle-même la maman d'un enfant en état végétatif.
Ça y est, on imprime les papiers, on le fait ce week-end. Je donnerai le papier à plusieurs personnes. Comme ça, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra dire « mais elle n'a pas dit ». Et tous les ans, je renouvellerai ce papier. Je réactualiserai pour qu'on ne dise pas « oui, mais elle a peut-être changé d'avis ». Non, non, je ne changerai pas d'avis. Parce que ben, c'est vrai que le truc de Vincent Lambert, ça m'a réveillée, ça m'a dit « mais moi, je l'ai dit à tout le monde, oui, effectivement. Mais ben, il faut qu'il y ait une trace écrite parce que Vincent Lambert, il l'a dit à plein de gens apparemment. » Et puis on ne l'écoute pas. Donc moi je veux qu'il y ait une trace écrite. Je ne veux aucune aide technique de quoi que ce soit. Je veux partir si je dois partir. Moi ça ne me perturbe absolument pas de parler de ma fin de vie. On parle bien de la naissance, de notre vie. Eh bien il faut parler de la fin de vie aussi.
Brigitte au micro RTL de Benjamin Boucriche.
RTL soir 18h09.
On va marquer une pause. Et le compost humain vient d'être légalisé aux États-Unis.
RTL soir. 18h11, RTL soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et voilà une innovation qui laisse songeur, Isabelle. Aux États-Unis, l'État de Washington vient de légaliser le compost humain.
Oui, c'est ce qu'on appelle aussi l'humusation du défunt. En clair, l'utilisation d'un corps pour faire de l'engrais. C'est plus écologique qu'un enterrement ou qu'une crémation, mais psychologiquement, ça n'a rien d'évident. Philippe Corbet, vous êtes aux États-Unis pour RTL.
Oui, alors ce n'est pas de l'engrais de jardinage, évidemment. Cet État de Washington permettait déjà des enterrements sans cercueil, sans caveau, dans la terre, ce qu'on appelle des cimetières verts. Et la loi qu'a finalement signée hier le gouverneur offre aux familles des défunts une possibilité supplémentaire en plus de l'enterrement ou de la crémation. Cette nouvelle technique est en quelque sorte une crémation moins polluante, plus lente. Elle s'inspire de la décomposition du bétail dans les ranchs et les fermes. On laisse le temps au corps de reposer dans des copeaux de bois et de la paille. Et en quelques mois, ça se mêle naturellement à la terre, sans odeur. Les scientifiques qui ont développé ce projet ont pu l'expérimenter sur les restes de 6 volontaires qui étaient malades en phase terminale. Les autorités publiques ont mené une série de contrôles. Alors évidemment, comme les crémations, ça ne pourra pas se faire n'importe où, n'importe comment. Il faudra des agréments pour que la dignité du défunt soit respectée. Mais ça intéresse déjà des personnes âgées dans d'autres États. Ici aux États-Unis, les enterrements et les cimetières coûtent parfois très cher. Et il n'est pas rare que les mourants demandent à leur famille de disperser leurs cendres dans la nature.
Philippe Corbet aux États-Unis donc, pour RTL.
Une religieuse franco-espagnole de 77 ans a été assassinée en début de semaine dans un village de Centrafrique. Elle a été décapitée. Il pourrait s'agir d'un crime rituel.
Le foot, c'était écrit, Rudy Garcia va quitter l'Olympique de Marseille à la fin de la saison.
Et il a pourtant mené le club jusqu'en finale de Coupe d'Europe l'an dernier, mais cette saison est décevante. Pas de podium en championnat, aucune place européenne et une élimination précoce en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. L'entraîneur a désormais une bonne partie du stade Vélodrome contre lui, alors il jette l'éponge.
J'ai décidé de partir et j'ai proposé cette solution à mon président, qui l'a accepté. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Si j'écoutais simplement ma détermination et mon caractère, je resterais. Mais par contre, si j'écoute un peu le bon sens et la raison, je pense que c'est bien d'arrêter l'aventure maintenant. Je peux dire aussi que ça a été un grand plaisir d'entraîner l'Olympique de Marseille. Je pense que cette saison m'aura certainement appris et m'aura fait progresser plus qu'aucune autre saison.
Rudy Garcia au micro RTL, d'Hugo Hamelin.
Festival de Cannes 2019
sur RTL. Et on termine ce journal avec deux beaux gosses, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.
Les deux stars du dernier Tarantino présentés hier soir à Cannes, Once Upon a Time in Hollywood, une plongée dans l'industrie du cinéma de 1969 du point de vue d'un acteur de série B et de sa doublure. La projection a été suivie d'une longue ovation, 6 minutes d'applaudissements non-stop. Un grand bonheur pour les deux acteurs, DiCaprio d'abord.
Écoutez, pour moi, c'est juste un immense honneur que ce film soit présenté ici. Vous savez, c'est le dernier endroit où l'on célèbre l'héritage du cinéma et ça dure depuis 1946. Pouvoir montrer ce film qui parle d'Hollywood et d'un certain genre de cinéma que je ne considère pas comme oublié, mais auquel on se risque moins, épique, basé sur des histoires novatrices. Aujourd'hui, on voit des choses très différentes et celui-ci nous ramène à une autre manière de fabriquer les films que j'adore voir.
C'est très spécial de se retrouver ici avec Quentin, 25 ans après sa palme. Pour lui, ça compte beaucoup, c'est un endroit où on respecte les raconteurs d'histoire. Comme Léo l'a dit, ce film est une déclaration d'amour au récit sur grand et petit écran. En fait, j'étais très impatient de le voir ici, au milieu du public.
Brad Pitt et Leonardo DiCaprio avec Stéphane Boutsock.
Le film sortira en France le 14 août. À Cannes ce soir, l'événement, c'est la montée des marches de Xavier Dolan pour son film Mathias et Maxime. Et puis, après sa palme d'or d'honneur, Alain Delon rend hommage aujourd'hui à son public. Dans une lettre transmise à la presse, il écrit « Lorsque les honneurs ne seront plus que de vains et lointains souvenirs, il est une seule chose qui brillera par sa constance et sa longévité. Vous, vous seul, à vous qui avez fait ce que je suis et qui ferez ce que je serai, il me fallait vous le dire. Je vous dis merci, merci, merci. »
Et je vous dis à tout à l'heure Isabelle,
à tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité.